du temps de Jésus, c'était un classique entre experts de la loi de se poser des colles. Comme par exemple, de demander à un grand maître en écriture de résumer en une seule phrase les 613 commandements de la Torah. Il y en a 248 positifs, fais ceci, fais cela, et 365 négatifs, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et la question posée à Jésus pourrait bien être destinée à tester ses connaissances et son habileté. Quel est le plus important des commandements ? À l'évidence, la réponse de Jésus dépasse le cadre du jeu entre experts. Et quand un passage de la Bible cite un autre passage, il est intéressant d'aller voir d'un peu plus près s'il s'agit d'une citation tout à fait simple ou s'il y a une modification de l'idée de base du texte d'origine. Alors, Jésus cite ici un passage de la Torah, un passage que tous les Juifs de tous les temps connaissent par cœur, car c'est le début du schéma. Le schéma Israël est un texte si fondamental qu'il est récité deux fois par jour. Alors, Jésus n'est pas très original en citant ce passage, écoute, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Sauf que Jésus transforme cette citation. Traditionnellement, le schéma Israël invitait l'homme à aimer Dieu selon trois dimensions de son être, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. De tout son cœur. Le cœur, dans la Bible, ce n'est ni le lieu des sentiments, ni celui de l'intelligence, c'est le lieu des décisions, le lieu où se décide le mouvement. Et le schéma nous propose de décider de nos actes et de nos élans en fonction de Dieu. De toute son âme. Ce qui est traduit par âme dans nos Bibles, ce n'est pas, comme dans d'autres traditions, la dimension spirituelle de l'homme, mais c'est ce qui différencie un être vivant d'un objet, c'est la dynamique de vie. De toute sa force, c'est de mettre tout ce qui est en notre pouvoir au service de Dieu. Dans le schéma Israël, il est donc question d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et Jésus ajoute un quatrième point, celui de l'intelligence. Cet ajout a certainement fait un choc à ceux qui l'écoutaient, puisqu'ils connaissaient par cœur ce passage qu'ils récitaient deux fois par jour. Pour Jésus, le devoir le plus essentiel de l'homme comprend donc le devoir d'utiliser son intelligence dans le domaine de la foi. C'est même plus important que d'aimer son prochain, qui n'est cité qu'en second, comme s'il était le fruit du premier. Jésus nous dit qu'aimer Dieu véritablement, c'est l'aimer en réfléchissant par soi-même. Et ce n'est pas du tout une évidence. Bien des gens pensaient, et pensent même encore, que pour bien aimer Dieu, il faudrait renoncer à réfléchir par soi-même, qu'il faudrait sacrifier son intelligence au nom de la foi. Jésus dit ici le contraire. L'intelligence, selon ces paroles de Jésus, est une des dimensions de la foi, une dimension essentielle, puisque l'intelligence est la plus excellente des qualités que Dieu donne à l'homme. Certes, la foi est plus large que l'intelligence, car Dieu reste évidemment en grande partie inconnaissable. Mais l'intelligence fait partie de la foi. L'intelligence vraie connaît par ailleurs ses limites. Et une intelligence aimante est respectueuse de la personne que l'on a en face de soi. Que la réflexion personnelle soit essentielle pour aimer Dieu n'était effectivement pas quelque chose d'évident dans le livre du Deutéronome. Finalement, l'essentiel était l'adhésion et la pratique, plus que la réflexion personnelle et la théologie. L'homme était appelé à décider si oui ou non il choisissait de suivre la loi telle qu'elle est écrite dans le livre. Pour le reste, l'écriture tient lieu d'intelligence et de sagesse, comme le dit Moïse. Deutéronome, chapitre 4, versets 5 et 6. Je cite. « Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. Vous observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et diront, « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Fin de citation. L'intelligence est donc, selon Jésus, une alliée de la foi, qui n'a rien à craindre de l'intelligence. Au contraire, la foi n'a rien à craindre des sciences physiques ou humaines, ni de la recherche biblique. Elle n'a rien à craindre des débats philosophiques ou théologiques. Au contraire. Alors, pourquoi a-t-on pu rabaisser la raison, malgré cette position aussi fracassante de Jésus en faveur de l'intelligence? Pourquoi a-t-il fallu attendre le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, pour que péniblement l'intelligence retrouve sa place comme étant une dimension de la foi? C'est peut-être d'abord une question de pouvoir, le pouvoir des puissants sur les petits. Et Jésus anéantit cette hiérarchie, il rend à chacun la liberté de penser par lui-même. Il y a aussi parfois une humilité mal placée qui peut faire renoncer à réfléchir par soi-même. La théologie et l'éthique touche à des questions essentielles et difficiles. Il faudrait peut-être mieux laisser ces réflexions à des spécialistes qui diront aux autres ce qu'ils devraient faire et penser. Est-ce que je ne risque pas de me perdre en pensant de travers, à être coupable ainsi aux yeux de Dieu? Non. Non, nous dit Jésus. Aujourd'hui même, il dit à chacun, vous avez assez d'intelligence pour la mettre au service de votre recherche de Dieu. Et puis, aimer Dieu, c'est lui faire confiance. Jésus nous montre que Dieu est le premier à nous aimer, à nous pardonner, à nous rechercher quand nos routes se perdent. Par conséquent, même si nous nous trompons en réfléchissant de travers, son amour ne sera pas mis en cause. Et au moins, nous aurons réfléchi et nous nous serons ainsi ouverts à lui dans une relation sincère. Et puis, cela aura exercé notre intelligence, cela nous aura permis de nous poser des questions, de chercher vraiment à mieux connaître Dieu, en acceptant de mettre un peu en cause ce que nous pensions. Jésus, en montrant que l'amour de Dieu libère notre intelligence, nous libère des questions qu'il ne faut pas se poser, des préjugés qui nous viennent d'on ne sait où, des dogmes éternels. Pourtant, Jésus ne nous appelle pas à faire table rase de ce qu'ont produit les générations passées. La preuve, c'est que Jésus entre ici en débat avec la tradition. Il discute avec les autres. Il part de la Bible pour chercher l'essentiel. La Bible est la base, mais il faut y ajouter l'intelligence. Il le dit ici de façon radicale, en plaçant la réflexion personnelle, quotidienne, comme une dimension essentielle pour aimer Dieu. Nous avons souvent une idée simple, trop simple, qui est de ce qu'il faudrait croire pour être un bon chrétien. Qu'est-ce qu'il faudrait croire pour être un bon chrétien ? Il y a là un malentendu terrible, entretenu par une difficulté de traduction très fréquente. Dans les évangiles, il est souvent écrit que l'essentiel est de croire. Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, croire en son nom. Et quand on entend une telle affirmation, cela veut dire que c'est une question de vie ou de mort d'avoir telle ou telle croyance. Or, le verbe, traduit alors par croire, ne veut pas dire cela. Le verbe pisteio en grec ou aman en hébreu n'est pas du domaine de la croyance, mais du domaine de la foi, de la relation à Dieu. Une personne qui se dit en recherche, par exemple, peut douter de l'existence de Dieu. Mais si elle le cherche, cette personne est bien dans la foi, puisqu'elle espère Dieu à travers cette recherche. Et en espérant, elle aime déjà par avance. C'est ainsi que Jésus montre en exemple un centurion romain pour sa foi extraordinaire. Alors que le centurion était vraisemblablement assez nul du point de vue des croyances, de la morale, adorant l'empereur de Rome comme un dieu, et pas certainement pas le dernier en matière de violence, autrement il n'aurait pas été nommé centurion. Mais cela ne l'empêchait pas d'espérer en Jésus d'une certaine façon. L'essentiel est donc d'aimer Dieu, nous dit Jésus, de cheminer vers lui, de l'espérer. L'intelligence est une façon essentielle d'aimer Dieu, car quand on aime quelqu'un, on cherche à mieux le connaître. Sur la base du malentendu sur ce verbe croire, on a souvent répété aux gens qu'il fallait croire ceci pour être sauvé, mais surtout ne pas croire cela, parce qu'alors on serait perdu en dehors de la vraie foi. Les gens ont souvent pris peur, évitant de penser et prenant pour sacré telle ou telle croyance. La peur de penser des bêtises a donc poussé à ne pas réfléchir. La paresse aussi, car c'est bien plus fatigant de se poser des questions que de se reposer sur des certitudes que l'on vous présente comme vérité éternelle. Ce n'est pas ce que fait Jésus. Il invite chaque croyant à réfléchir par lui-même dans la confiance que nous donne l'amour de Dieu pour nous. C'est une constante des paroles et de la façon d'être de Jésus. Ces paraboles nous invitent à réfléchir, mais aussi ces commandements impossibles du genre « Soyez parfaits comme Dieu lui-même est parfait », ces paroles parfois provocantes, ces gestes, sa liberté vis-à-vis des commandements et de la loi, sa mort même. Tout nous invite à réfléchir par nous-mêmes et à cheminer ainsi dans l'amour de Dieu. C'est alors que nous serons dans la vérité, au sens de l'Évangile. Parce que la vérité, là non plus, ce n'est pas une question de croyance juste, mais une question de relation vraie. Quand on a réfléchi par soi-même à ce qui nous semble être juste aux yeux de Dieu, on est bien plus dans la vérité au sens de l'Évangile que quand on nous force par la crainte à suivre une voie toute tracée. Cet appel de Jésus à la réflexion personnelle pour chercher Dieu, le scribe l'entend avec une grande intelligence. Qu'est-ce qu'il dit, le scribe ? Il reprend les mots de Jésus avec le triple commandement d'aimer Dieu, tiré du schéma, augmenté du quatrième point de Jésus sur l'intelligence. Il a donc écouté. Il a même placé l'intelligence en deuxième position, derrière le cœur, alors que Jésus l'avait posé, mis en troisième. Plus fort encore, il exerce son intelligence en tirant la conséquence de tout ce qui précède, en disant « Aimer Dieu, aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Le scribe a compris qu'il doit changer sa relation à Dieu, que l'importance de la loi a été relativisée, qu'il est désormais invité à découvrir Dieu par lui-même, le découvrir en l'aimant, dans une réflexion personnelle et non plus comme un simple article de catéchisme répété sans réfléchir. Et Jésus donne alors un encouragement incroyable. Relisons la conclusion de ce passage. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Dire que par son intelligence, il n'est pas loin du royaume de Dieu est un compliment immense. Mais c'est aussi une réserve. Pas loin, c'est encourageant. Mais ce n'est pas encore l'arrivée. Son écoute et sa réflexion l'ont préparé à recevoir ce royaume qui s'approche, cette nouveauté qui vient et qui est déjà là, en Christ, pour chacun de nous. Amen.